Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, il est là le signe le plus tangible du réchauffement climatique dans le Grand Nord. C'est cette région polaire avec une terre gelée en permanence, le pergélisol en français, le permafrost en anglais. Selon les scénarios les plus optimistes, d'ici 2100, près d'un tiers de ce pergélisol pourrait disparaître. Au Groenland, la fonte des glaces expose de sales secrets qu'on pensait enfouis pour l'éternité. En août 2016, un climatologue a révélé l'existence d'une ancienne base nucléaire américaine et ses déchets cachés sous la glace. Une source de tension diplomatique depuis, entre le territoire autonome, le Danemark et l'allié américain. Explication avec Anne-Françoise Hiver, notre correspondante en Scandinavie.
Projet Iceworm, ver de glace, c'est le nom de code que les Américains ont donné à ce projet qu'ils mettent en place à la fin des années 50. L'objectif, creuser dans la calotte glaciaire du Groenland et y entreposer des missiles pointés vers l'Union soviétique. L'île appartient au Royaume du Danemark, Copenhague et Washington sont alliés, mais les Américains se gardent bien de révéler leur sinistre projet aux Danois. En 1959, ils construisent Camp Century, un site militaire ultra secret à 200 km à l'est de la base aérienne américaine de Thule. Officiellement, il s'agit d'établir des laboratoires de recherche sur l'Arctique. De gigantesques travaux sont entrepris, des tunnels percés, un petit réacteur nucléaire installé. En dépit de l'accord de défense passé avec les Danois qui interdit pourtant le transit d'armes nucléaires au Groenland, la couverture est excellente, mais la glace est mouvante, l'endroit instable. Finalement, en 1967, le projet est abandonné. Les Américains font leurs valises, mais laissent le site en l'état, abandonnant derrière eux 200 000 litres de fuel, 240 000 litres d'eau usée, sans compter l'enceinte de confinement du réacteur nucléaire mobile. À l'époque, ils sont convaincus que les déchets sont à tout jamais enfouis. Sauf que le climat se réchauffe, la glace se met à fondre et révèle ses secrets. Le poteau rose est exposé en août 2016 dans un article scientifique signé par le glaciologue William Colgan. Stupeur au Danemark et au Groenland, le Pentagone reconnaît les faits. Mais que faire? Qui de payer finalement? En janvier dernier, le Danemark a annoncé qu'il allait débourser 180 millions de couronnes, soit 24 millions d'euros, pour financer le nettoyage des bases abandonnées par les Américains. De l'avis général, pourtant, ce ne sera pas suffisant.
La fonte du pergélisol, c'est une véritable bombe à retardement, parce que le dégel accélère le réchauffement climatique et qu'il libère aussi de nombreux virus oubliés ou inconnus. Mais la fonte des glaces, c'est également l'apparition d'un nouvel Eldorado, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent avec la débâcle. Les richesses du sous-sol sont désormais à portée de main. La conquête du Grand Nord fait partie de l'histoire russe et aujourd'hui l'Arctique russe, cela représente 3 400 000 km² et des ressources naturelles immense. Ces dernières années, le développement de cette région est devenu un objectif national majeur pour Moscou. Notre correspondant Étienne Bouche a pu se rendre dans le district autonome de Yamal, au-delà du cercle polaire.
Pendant la nuit polaire, le ciel de Sabetta prend une teinte orangée. Face à d'immenses réservoirs en béton, le Christophe de Margerie, un métanier brise-glace de 300 mètres de long, est à quai. Il y a un an, la Russie inaugurait ce site gazier ébouriffant. Construite au milieu de nulle part sur la péninsule de Yamal, au-delà du cercle arctique, l'usine de Sabetta produit du gaz naturel liquéfié. À la tête de ce consortium international, il y a le russe Novatek, auquel est associé le français Total, mais aussi deux sociétés chinoises. Dmitri Monakov, premier adjoint du directeur de Yamal LNG.
L'usine comporte 142 modules, des modules de 45 mètres sur 40, 50 mètres de hauteur et faisant entre 4 et 5 000 tonnes. Les éléments ont été préparés sur des chantiers, puis ont été transportés par bateaux spéciaux jusqu'ici. La fabrication ne s'est pas faite sur place afin d'accélérer la construction de l'usine.
La richesse de la Russie va s'accroître dans l'Arctique. Ces mots prononcés par Vladimir Poutine le jour de l'inauguration illustrent l'intérêt du pouvoir pour cet Eldorado septentrional. La troisième ligne de production a été mise en route il y a quelques jours. La réalisation de ce projet est une victoire symbolique pour Moscou. Le site de Sabetta a vu le jour en dépit des sanctions économiques visant l'économie russe. Il y a quelques jours, la capitale de la région de Yamal, Salekhard, accueillait la première édition d'un forum consacré au développement de l'Arctique. Au programme Potentiel économique, préservation des peuples indigènes et initiatives écologiques. Le contenu des discussions reste convenu. L'événement est organisé par la région avec le soutien du ministère des Affaires étrangères. Alexandre Kalinin, adjoint au gouverneur de Yamal, évoque notamment un accord avec le pétrolier Lukoil.
Bien sûr, la vie n'est pas facile dans la région et il est important que malgré l'éloignement des exploitations dans le nord où le travail fonctionne par rotation, le nombre d'habitants ne diminue pas. En Sibérie occidentale, la superficie des zones exploitées par Lukoil dépasse légèrement la superficie d'un pays comme l'Autriche. C'est un groupe extrêmement important et nous avons de la chance qu'il contribue de façon concrète au développement des infrastructures sociales locales. Cela nous permet de créer sur place des conditions de vie favorables qui incitent de plus en plus de gens à rester.
L'appétit que suscitent les ressources de l'Arctique pose inévitablement des défis écologiques. Il y a 5 ans, l'organisation WWF a lancé avec un partenaire privé un classement écologique des sociétés énergétiques russes. Début décembre, elle a distingué les groupes les plus vertueux lors d'une cérémonie dans le centre de Moscou. Le responsable énergie de WWF, Alexei Knijnikov, se félicite de l'attention croissante portée à ce classement. Pour les sociétés, il s'agit de soigner leur image, mais aussi de s'adapter à de nouvelles exigences, celles des clients, mais aussi celles de potentiels partenaires. Mais Alexei Knijnikov reste lucide. Le classement s'appuie sur les données publiées par les entreprises.
Nous estimons qu'une partie des informations n'est pas fiable. C'est pourquoi nous souhaitons établir un dialogue plus franc entre les organisations écologiques locales et les entreprises afin d'inciter à publier des informations conformes à la réalité. Ce n'est pas une mince affaire, mais je pense que nous prenons la bonne direction, car la logique de transparence contraint, avec le temps, à transmettre des données exactes.
Dans le cas de Sabetta, Alexei Knijnikov explique que l'implication de partenaires étrangers a facilité l'intégration de critères écologiques. Il n'empêche que ces activités industrielles modifient en profondeur l'environnement. Des travaux de dragage ont été effectués dans le golfe de Lob. Les effets du réchauffement climatique rendent désormais possible la navigation sur la route maritime du Nord, un axe stratégique qui permet d'atteindre à la fois l'Europe et l'Asie. Alexandre Kamniev est océanologue. Ce professeur d'université estime que c'est l'innovation qui permettra de relever les défis écologiques.
Au début du siècle dernier, seuls 3 avions volaient. Aujourd'hui, il y en a des milliers. La vie suit son cours, c'est comme ça. Et il faudra certainement s'accommoder du fait que des bateaux navigueront bien par la route maritime du Nord, car il y en aura. Alors, que faut-il faire? Eh bien, respecter les règles de précaution et les bonnes pratiques concernant les déchets, le carburant et les émissions polluantes. De nouvelles énergies vont apparaître. Bien sûr, ce n'est pas pour demain, mais la vie nous imposera de faire ce qui est dans l'intérêt de tous.
Youri Kozirev est un photojournaliste chevronné. Il a remporté cette année le prix Carmignac pour un reportage consacré à l'Arctique. Ce photographe de l'agence Nour est très impressionné par les projets qui se développent dans la région, même si à chacun de ses voyages, il observe de nouvelles transformations.
Ça apparaît évident qu'il n'y aura peut-être plus de glace en Arctique dans une dizaine d'années. Il s'agit de changements quotidiens. Je suis allé voir des nénettes. Ils sont environ 6000 nomades à remonter vers le nord. Ils parcourent 1200 km dans un mouvement continu, sans s'arrêter. Ils partent chasser le renne. C'est très beau. Cette année, aucune des équipes n'est parvenue à rejoindre la mer. Ils n'ont pas pu traverser l'Ob au printemps. Parce que tout change. L'eau gèle plus tardivement. La glace fond plus tard et elle est plus fine. Le paysage change en permanence. Si par exemple les nénettes avaient l'habitude de pêcher dans un lac, ce lac n'existe plus.
Selon le rapport annuel de l'administration océanique et atmosphérique américaine, publié il y a quelques jours, ces 5 dernières années en Arctique ont été les plus chaudes jamais enregistrées.
L'Arctique, c'est un monde changeant que des milliers de personnes veulent voir avant qu'il disparaisse, des touristes du grand froid. L'une de leurs destinations préférées aujourd'hui, c'est l'Islande. Depuis 2010, l'afflux de visiteurs sur l'île de glace et de feu a été phénoménal. De moins de 500 000, ils sont passés à plus de 2 200 000 l'an dernier. L'impact du tourisme est aujourd'hui énorme sur le pays et sur la population. Un reportage de Jérémy Richard.
Avec ses côtes à quelques dizaines de kilomètres seulement du cercle polaire, ses cascades, ses glaciers et ses aurores boréales, l'Islande fascine. L'an passé, près de 2 300 000 personnes ont visité l'île volcanique, c'est plus de 6 fois la population locale. Des touristes qui ont métamorphosé le pays au fil du temps. Björn Oli Hauksson est directeur général d'Isavia, opérateur des aéroports islandais.
Nous voyons des choses que nous n'aurions jamais pensé possibles, comme trouver un bon restaurant dans le nord-est de l'Islande, avoir un revenu décent pour fournir des services qui profitent d'ailleurs aux Islandais eux-mêmes. Ça a donc permis de ramener la vie à plusieurs endroits du pays, une croissance économique qui n'existait pas auparavant. Bref, ça a tout changé ici.
Avec une croissance du nombre de visiteurs de près de 25% depuis 2010, l'industrie touristique surpasse à elle seule, ces deux dernières années, les industries de la pêche et de l'aluminium réunies, des secteurs autrefois porteurs de l'économie islandaise. Cette année, les chiffres montrent les signes d'un ralentissement et c'est un répit bienvenu pour Ásta Kristín Sigurjónsdóttir. Elle préside le Tourism Cluster Initiative, une pépinière d'entreprises spécialisée dans le secteur touristique.
D'aucuns diraient « Waouh, c'est formidable d'avoir une telle croissance ». Mais c'est aussi très compliqué, parce que ça peut être difficile pour les entreprises de suivre le rythme. Elles doivent investir beaucoup, changer leur stratégie en matière de services et doivent fonctionner très vite sur une longue période. C'est une hausse si rapide et si forte. Ce n'est pas forcément le modèle de croissance durable que nous recherchons.
Pour le professeur d'économie à l'université d'Islande, Þorólfur Matthíasson, le boom touristique n'a d'ailleurs pas été particulièrement bien géré.
Nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour prendre en charge 2 millions de touristes par an et nous n'investissons pas assez d'argent pour cela. Elles sont d'ailleurs à flux tendu. Les routes sont par exemple trop étroites et ne sont pas capables de supporter la densité du trafic. Les endroits populaires sont également bondés et personne ne sait comment gérer cela.
Une petite portion du pays concentre en effet à elle seule une large partie des flux touristiques. Au sud, autour de la plage de sable noir de Reynisfjara, aux cascades Skógafoss et Seljalandsfoss, ou encore dans le Cercle d'Or, près de la capitale. Et parce qu'il n'a pas été possible de construire au même rythme que l'arrivée des touristes, les effets sur la nature commencent à se faire sentir. Hákon Ásgeirsson est chef d'équipe au département nature de l'Agence islandaise pour l'environnement.
Avant, les vieux chemins tracés dans la montagne par les moutons suffisaient. Mais aujourd'hui, il faut des sentiers pédestres bien balisés pour indiquer aux gens où ils peuvent marcher ou non. Nous avons dû fermer certaines zones sur une courte période parce que la végétation ne pouvait plus tolérer ce trafic. Et c'est le nouvel impact négatif auquel nous devons faire face actuellement. Ces flux continuent, même pendant l'hiver, le printemps et l'automne. Or, le printemps et l'automne sont les saisons où la nature est la plus fragile.
Et justement, cette année, la vallée de Reykjadalur et ses sources chaudes naturelles ont été interdites d'accès pendant un mois et demi pour laisser la zone se reposer. Mais l'Islande ne sature pas pour autant de l'avis de Sigridur Dög Gudmundsdóttir, chef de projet chez Íslandsstofa, société semi-gouvernementale chargée des campagnes de promotion de l'Islande à l'international.
Si vous allez en France visiter la Tour Eiffel, bien sûr, il y a énormément de touristes, mais vous ne diriez pas pour autant que la France est saturée. Je pense que c'est pareil en Islande. Nous avons quelques endroits où il y a beaucoup de touristes, mais nous en avons tellement d'autres où vous avez le sentiment d'être seul au monde ou avec très peu d'affluence. Parfois, les gens ne regardent que les chiffres. L'Islande, ce pays de seulement 350 000 habitants, mais avec 2,2 millions de touristes. Mais on doit aussi ajouter un troisième chiffre, celui de la superficie du pays, 103 000 km². Il y a donc assez d'Islande pour tout le monde.
Avec un budget d'environ 3 millions d'euros par an, Íslandsstofa a désormais axé ses campagnes pour encourager les gens à voyager à travers tout le pays pour mieux disperser les flux, car les projections indiquent que le nombre de touristes devrait atteindre un nouveau record de 2 500 000 en 2018.
Décembre 2018, c'est la journée internationale des migrants. D'après les chiffres de la CIMAD, plus de 200 millions de personnes ont quitté leur pays cette année à la recherche d'une vie meilleure. Aux Pays-Bas, des pasteurs se mobilisent depuis plus d'un mois maintenant pour empêcher l'expulsion d'une famille arménienne en situation irrégulière. Ils se relaient en permanence pour assurer des messes 24 heures sur 24 dans une église de La Haye et empêcher les policiers d'entrer dans le bâtiment. Antoine Moutot s'est rendu sur place.
Réunis dans la Betelkerk, une petite église protestante de La Haye, une douzaine de personnes est venue assister à l'une des centaines de messes célébrées depuis le 26 octobre dernier. Ici, jour et nuit, des pasteurs protestants accourus de tout le pays, mais aussi quelques prêtres catholiques, se relaient pour assurer un service religieux en continu. Dirk Steiermann est l'un d'entre eux. Il a déjà tenu une messe pendant près de 6 heures.
Pour moi, c'est une manière de vivre ma foi, je pense, de mettre en action ce qu'on dit en dimanche. Bon, en dimanche, on lit des psaumes ou des évangiles, et dans ces textes-là, il a dit que notre Dieu prend parti pour les pauvres, pour les réfugiés. Et maintenant, nous lisons ces textes-là et nous prenons aussi parti pour une famille qui est réfugiée.
La famille de réfugiés en question est originaire d'Arménie. Un couple et ses trois enfants, âgés de 15 à 21 ans, tous en situation irrégulière. Ils sont aux Pays-Bas depuis 2010. Les trois enfants sont passés par le système scolaire néerlandais et ont désormais leurs attaches ici. Mais voilà, depuis peu, les services d'immigration néerlandais exigent leur expulsion. Le gouvernement juge que désormais l'Arménie est un pays sûr. En attendant, la famille a trouvé refuge dans l'église Bethel. La police pourrait très bien venir les y chercher, sauf qu'ils n'ont pas le droit de le faire pendant un service religieux, d'où l'initiative des pasteurs. Lors d'une conférence de presse à laquelle étaient conviés les médias étrangers, Ayarpi Tamrazian, l'aîné des trois enfants, a tenu à remercier l'église.
C'est une période difficile pour nous, mais en même temps, nous recevons tellement de soutien de tout le pays, du monde entier aussi. Ça représente beaucoup pour notre famille. Nous sommes entourés de gens qui veulent nous aider. C'est incroyable. Ça nous donne beaucoup de force.
Les pasteurs demandent pour ces enfants une amnistie, le fameux Kinderpardon, très débattu dans la classe politique, mais qui, dans ce cas précis, a été rejeté par les services d'immigration. Le pasteur Dirk Steiermann espère encore que le gouvernement changera d'avis.
C'est difficile, je pense, parce qu'il y a une loi d'amnistie pour les enfants. Et cette loi-là, c'est pas maintenu dans une manière humaine. Donc, pour nous, pour l'Église, nous demandons au gouvernement de tenir cette loi d'amnistie pour les enfants dans une manière plus grande, plus laissée, plus libre.
Avant la famille Tamrazian, une autre famille arménienne a fait beaucoup parler d'elle cet été. Par peur d'être expulsée, Lily, 12 ans, et Ovik, 13 ans, ont fugué plusieurs fois, tenant ainsi en haleine tous les Pays-Bas pendant plusieurs semaines. Finalement, le gouvernement a décidé de faire une exception pour eux et de ne pas les envoyer en Arménie. À l'église Bethel, beaucoup espèrent désormais un scénario similaire, comme un beau cadeau de Noël.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez nous réécouter sur RFI.fr dans l'onglet émissions, vous cherchez Accent d'Europe. Et puis vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, rendez-vous ici demain à la même heure.